L'invité de la matinale, Frédéric Lenoir, pour votre dernier livre, Le Miracle Spinoza, qui paraît chez Fayard. Spinoza qui a consacré sa courte vie à la philosophie, notamment celle du bonheur, celle des religions, celle de la politique également. On va regarder ça en détail, Frédéric Lenoir. D'abord, la question de côté de Patricia Martin.
Oui, Frédéric Ledan, notre président de la République se réfère souvent aux philosophes. Ça tombe bien parce que si l'on en croit Platon, dans la République, seuls les philosophes savent ce qu'il faut faire pour qu'un État soit bien gouverné. Alors, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est philosophe et qu'il est plus particulièrement spinoziste, puisqu'on parle de Spinoza ce matin? Il parle très très souvent, il l'a fait à maintes reprises, des passions tristes.
Absolument, qui est un vocabulaire typiquement spinoziste. Et il a deux choses de spinoziste, Macron. Il a effectivement ce vocabulaire, on va dire, dans lequel il nous incite tout le temps à aller vers quelque chose de positif, de constructif. Et ça, c'est totalement spinoziste aussi. C'est-à-dire, Spinoza, c'est un philosophe optimiste qui nous dit, allons de l'avant. On peut améliorer les choses, on peut s'améliorer soi-même, on peut gagner en liberté, on peut améliorer le monde. Et donc, il croit en la raison, Spinoza. Et il croit que la raison va nous permettre de régler nos affects, de les gérer, de mieux les maîtriser et d'arriver, affect et raison ensemble, puisqu'il ne les oppose pas, à être dans une joie plus grande. Et ça, c'est tout à fait la personnalité d'Emmanuel Macron. Au-delà de ses idées, c'est sa personnalité. On sent que c'est quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de positif. Il est plus américain que français, j'irais dans sa manière de regarder le monde. Il voit toujours le verre à moitié plein, alors qu'on a plutôt tendance en France à être globalement assez critique et avoir plutôt le verre à moitié vide.
Ça, c'est pour un côté. Alors, l'autre côté, c'est quoi l'autre aspect spinoziste d'Emmanuel Macron?
L'autre aspect, non, c'est ça que je voulais dire, c'est que d'un côté, il utilise le vocabulaire des passions tristes, d'un autre côté, il a cet aspect constructif, positif, optimiste.
Ce positivisme, c'est même du déterminisme, et ça aussi, ça rejoint Spinoza.
Ce que dit Spinoza, c'est qu'on n'est pas vraiment libre de notre caractère. C'est-à-dire que c'est vrai que si on est avec un tempérament optimiste, eh ben, on restera toute sa vie. Si on est avec un tempérament pessimiste, on le restera aussi toute sa vie. Mais, nous dit Spinoza, on peut quand même passer de la tristesse à la joie, à l'intérieur de la personnalité, de la nature qu'on a. On peut pas changer sa nature, mais on peut être plus ou moins joyeux à l'intérieur d'une nature déterminée.
D'autant qu'à l'époque, il y avait l'obscurantisme, et on va en parler. Juste pour rester sur le domaine et au chapitre politique, votre père, René Lenoir, vient de disparaître. Il avait été ancien ministre, ancien secrétaire d'État à l'Action sociale chez Valéry Giscard d'Estaing, ancien conseiller de Jacques Chirac également à l'Action sociale. Que vous disait-il de l'actuelle action sociale des gouvernements actuels?
En fait, c'est vrai qu'il était un des premiers hommes politiques, on va dire hauts fonctionnaires, à souligner le fait que notre société laissait au bord de la route quantité d'êtres humains fragiles.
On disait qu'il était le ministre des exclus.
Oui, des exclus, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Les exclus, un Français sur 10. C'était surtout les personnes handicapées et les personnes âgées. Il n'y avait pas toutes les lois pour les handicapés, c'est lui qui les a fait voter. Et donc, tous les accès qu'on a aujourd'hui pour les personnes handicapées, toutes les minimums vieillesse, etc. Donc, il a fait toutes ces lois-là. Aujourd'hui, on a intégré cette dimension, il y a de nouveaux exclus. C'est-à-dire que chaque fois, et il soulignait à quel point aujourd'hui, il y avait effectivement de nouvelles précarités, et des gens notamment qui, parce qu'ils sont dans un chômage de longue durée, finissent par ne plus pouvoir du tout payer leur loyer, on les retrouve dans la rue, etc. Donc il y a sans arrêt, si vous voulez, de nouvelles précarités, ce qui fait que notre société doit tout le temps réinventer de nouveaux liens de solidarité, qui sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Et puis, je vais aller plus loin, il était très sensible à la question des migrants. Et donc, là-dessus, je crois qu'aussi, il est important de voir qu'on est dans un monde, il y a quasiment plus de frontières. On va pas tirer sur les gens. Donc,
il n'y a plus de frontières et cependant, on ne comprend toujours pas aujourd'hui, de façon européenne, même la question des migrants. On ne sait pas quoi en faire.
On ne sait pas quoi en faire, mais ils vont continuer d'arriver. Et donc, avec tous les drames qui se passent effectivement en Afrique, on va avoir de plus en plus de migrants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces migrants? Et là, effectivement, on peut dire, on ferme les frontières autant qu'on peut, on les expulse, etc. Ça va pas tenir très longtemps. Donc, à un moment donné, je crois qu'il va falloir qu'on repense nos liens de solidarité, non seulement au sein d'une nation, mais par rapport au monde entier. Et la mondialisation et tout ce qui se passe aujourd'hui nous oblige à nous repenser comme des citoyens du monde avec de nouvelles solidarités, c'est-à-dire peut-être des nouveaux sacrifices. Mais je pense qu'il y a une manière d'accueillir les migrants qui serait beaucoup plus responsable et qui nous permettrait de mieux les intégrer, ce que font les pays du Nord, d'ailleurs, en Norvège, Danemark, etc., que je connais assez bien. Et quand ils les intègrent vraiment. C'est-à-dire qu'ils leur apprennent la langue, il y a des familles qui s'occupent d'eux, etc. Donc, les choses sont bien faites. Ce qui fait que ce sont pas simplement des gens qu'on met dans des camps et puis on les laisse un peu comme ça. Et cette intégration-là, elle porte des fruits.
votre sensibilisation, vous sensibilisez les politiques, vous également, Frédéric Lenoir, mais alors vous, plutôt pour la cause animale, hein, vous rencontrez pas mal de personnalités politiques jusqu'à Matignon. Quelle oreille ont les politiques aujourd'hui sur la cause animale que vous défendez ?
En fait, il y a un décalage assez stupéfiant entre l'opinion publique, on a fait un sondage, 80% des Français considèrent que la condition animale est un enjeu politique et sociétal majeur. Je dirais que 80% des hommes politiques considèrent que ça n'a aucune importance. Donc, il y a un décalage très fort. Donc, j'essaye avec d'autres de rencontrer effectivement à tous les niveaux des hommes politiques, des députés. J'ai rencontré deux fois Nicolas Hulot récemment. Lui est très sensible, mais il faut qu'il fasse avancer le navire. Et ce qui fait qu'effectivement, je pense qu'on peut plus vivre comme on le fait actuellement, c'est-à-dire en utilisant les animaux, en infligeant de telles souffrances dans les conditions d'élevage, dans les abattoirs, mais pas seulement les animaux de cirque, les animaux sauvages dans les cirques. Il y a plein de questions qu'on pourrait
vous
soulever.
Avez la vivisection. Écrit. Vous avez beaucoup écrit.
J'ai fait un livre qui s'appelle Lettre ouverte aux animaux, dans laquelle j'essaie de repenser le lien entre l'homme et l'animal, parce que je crois, comme le disait Schopenhauer, que le plus haut sommet de la moralité, c'est de tenir compte de ceux qui sont le plus faibles. Et aujourd'hui, les êtres les plus faibles dans nos sociétés, ce sont les animaux qui n'ont même pas la parole pour se défendre. Et donc, si c'est pas nous qui les défendons, qui le fera ? Et comme dit Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un cœur pour les humains, un cœur pour les animaux, on a du cœur, on n'en a pas. C'est-à-dire que quand on a du cœur, on a envie d'aider les humains et les animaux, c'est-à-dire tous les êtres sensibles qui souffrent.
Les animaux qui ne sont pas des objets meubles, mais doués d'émotions
et de sensibilité.
Et de sensibilité, c'est tout le débat en ce moment. Pour refermer le chapitre avec votre père René Lenoir qui vient de disparaître, c'est par votre père que vous avez découvert l'intérêt de la lecture à 14 ans quand il vous a offert le Banquet de Platon. En quoi est-ce que ça a été une révélation pour vous ?
Eh bien parce que je m'ennuyais terriblement à l'école, aucune matière m'intéressait vraiment, et d'un coup, quand j'ai lu le Banquet de Platon, qui est un livre assez accessible, j'ai découvert qu'on était sur des questions essentielles, puisque le Banquet parle de l'amour, c'est quoi l'amour ?
C'est l'amour notamment, ça parle beaucoup aux adolescents, puisque c'est la philosophie
bien sûr,
de l'amour,
exactement.
Et ça vous a rencontré comme ça a rencontré beaucoup de
exactement,
jeunes.
Exactement, mais du coup j'ai eu envie de lire les autres dialogues socratiques, et puis après j'ai lu l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, et puis j'ai lu la lettre à Ménécée d'Épicure, et ce qui fait que mon père m'a inoculé le virus de la philosophie qui ne m'a jamais quitté.
On va revenir à l'objet de notre entretien ce matin, votre livre Frédéric Lenoir, ça s'appelle Le Miracle Spinoza qui paraît chez Fayard. Vous dites que Spinoza est évidemment un philosophe en avance, non seulement sur son temps mais aussi sur le nôtre. En quoi ce philosophe du XVIIe siècle est-il aujourd'hui encore un précurseur, mais plus seulement en politique ?
Au moins pour trois choses. La première chose, c'est qu'il nous fait complètement repenser la question de Dieu. On est encore dans l'opposition, soit Dieu existe, mais c'est le Dieu des monothéismes, soit il n'y a pas de Dieu. Et lui nous dit il y a une alternative, c'est-à-dire de penser Dieu autrement, comme effectivement un être totalement immanent, qui est la substance du monde, auquel on peut se relier, notamment par l'intuition. Et c'est une toute autre conception de Dieu qui mérite qu'on y réfléchisse. La deuxième chose, c'est que Spinoza nous dit la liberté n'existe pas. Au départ, il n'y a pas de libre arbitre. On est entièrement conditionné par nos passions, mais on peut accéder à la libération. C'est-à-dire qu'on peut se libérer de l'esclavage de nos émotions, de nos passions, de nos affects qui nous entravent. Et ça, c'est tout un travail intérieur qui reste d'une très grande actualité, puisque s'il revenait dans notre monde aujourd'hui, il verrait que le monde a bien progressé dans les conditions juridiques démocratiques, ce qu'il prônait, mais n'a pas beaucoup progressé dans l'évolution du cœur de l'être humain, qui est toujours pris par la jalousie, la peur, la colère, la tristesse, etc.
L'éthique et la politique.
Et donc, il lit l'éthique et la politique et il nous dit si on veut que le monde s'améliore, il faut aussi que les individus s'améliorent. C'est la phrase de Gandhi, il faut se transformer soi-même pour changer le monde. Spinoza l'a explicité quelques siècles avant.
Sauf que cette sagesse, ça ne s'acquiert pas en claquant des doigts,
non.
Ça demande un apprentissage.
Pas des recettes. C'est pas des recettes. Et Spinoza est exigeant et difficile, et nous dit c'est tout un chemin pour passer de la tristesse à la joie, mais ce chemin, ce qui est formidable avec Spinoza, c'est que c'est pas une injonction au bonheur, c'est une proposition à être heureux, et il nous dit chacun doit découvrir quelle est sa nature et ce qui le met dans la joie. Et donc, il n'y a pas deux natures similaires. Nous avons tous, nous dit-il, une essence singulière. Et c'est à partir de cette nature singulière que nous, une fois que nous la connaissons mieux, nous pouvons accéder à une joie qui ne sera pas la même que le voisin. Et donc finalement, c'est un appel à se réaliser, à s'accomplir.
Vous avez parlé de Gandhi à l'instant. En quoi la philosophie immanentiste de Spinoza fait écho à celle de l'Inde ?
Eh ben, il a découvert la philosophie du Vedanta, de la non-dualité hindoue, sans connaître l'Inde. C'est-à-dire que la non-dualité hindoue qui existe depuis 3000 ans nous dit, au fond, il n'y a pas de différence entre le monde et Dieu, le Brahman et l'Atman, entre l'être humain et le divin. Le divin est impersonnel, il est partout présent, et on peut y accéder par la libération de l'ego. C'est exactement ce que nous dit Spinoza avec d'autres mots, sans connaître la pensée de l'Inde.
philosophe universel et intemporel, c'est quand même bien la moindre des choses pour un philosophe. Pourquoi est-ce que vous insistez autant sur son côté universel à Spinoza ?
Parce que je suis étonné de voir à quel point il a été peu sensible aux préjugés de son temps. Tous les philosophes ont quand même beaucoup de préjugés qui sont liés à leur temps. Je le disais tout à l'heure, même Descartes, qui a vécu quelques décennies avant Spinoza, qui a révolutionné la pensée, même Descartes était encore prisonnier de la conception anthropologique, de la séparation, par exemple, entre le corps et l'esprit. Spinoza va totalement changer notre regard là-dessus. Il a encore quelques préjugés, Spinoza, mais très peu. Et on voit que par rapport à tout ce qu'il a changé dans notre regard, et qui continue de changer, parce que beaucoup de gens n'ont pas du tout pensé les idées que nous apporte Spinoza sont totalement révolutionnaires pour beaucoup. Elles n'ont pas été intégrées dans notre pensée occidentale. On est encore dans le dualisme, Dieu, le monde, le corps, l'esprit, et Spinoza déplace complètement la problématique.
Luc Ferry porte un regard très critique, très dur, sur le spinozisme, et vous le citez dans votre livre absolument, il compare l'entreprise Spinoza à une entreprise délirante, ce n'est pas rien, et que finalement ça ne tient pas la distance. Vous-même, effectivement, vous, dans votre livre, à la gloire de Spinoza, vous n'occultez pas ces critiques. Vous les situez où, les limites du spinozisme ?
La limite du spinozisme, c'est le système. C'est-à-dire Spinoza, il part de Dieu, en donnant une définition que je vous ai donnée tout à l'heure, et il arrive jusqu'à la joie absolue de l'être humain, qu'il appelle la béatitude, et tout est logique, tout se tient, si vous voulez. Et donc, évidemment, on peut toujours trouver une faille au système. Alors, Luc Ferry nous dit, j'ai trouvé la faille du système, donc tout s'écroule.
C'est un château de cartes.
C'est un château de cartes. Je suis pas du tout d'accord avec Luc, qui est un ami. Je lui dis, mais c'est pas parce que il peut y avoir des failles dans le système que tout s'écroule. Il y a plein de choses qui peuvent être formidablement vraies, même si la logique absolue de tout est critiquable. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut reprocher à Spinoza, c'est plus ponctuel. Le seul vrai préjugé qu'il n'a pas su dépasser, c'est lorsqu'il se pose la question du droit de vote des femmes dans la démocratie à laquelle il aspire. Il se dit peut-être pas. Et là, je pense
mauvaise pioche.
Et on voit qu'il a quand même un préjugé qu'il n'a pas réussi à dépasser. C'est bien dommage.
Alors, il ne faudrait pas limiter Spinoza au philosophe du bonheur. Cela dit, vous avez beaucoup écrit sur ce bonheur. Je vais faire référence à votre consoeur Laurence de Villers, qui elle aussi est docteur en philosophie. Elle dit dans son dernier livre Le bonheur sans mesure que si le bonheur est vital, rien ne justifie en revanche à le trouver en permanence. Ne sommes-nous pas, Frédéric Lenoir, et vous le premier, victimes d'une injonction du bonheur?
Mais bien sûr, je disais tout à l'heure, Spinoza propose un chemin vers la joie, libre à nous de le suivre ou pas. Et donc ce qui est terrible, c'est d'imposer l'idée du bonheur comme s'il fallait être heureux tout le temps, sinon on serait un loser ou un paumé.
Et pourtant, et donc, vous ne décrivez pratiquement que là-dessus, en grande partie.
C'est pas vrai.
En grande partie.
J'ai fait trois livres sur cette question,
mais
j'en ai fait plein d'autres, évidemment, d'histoire des religions ou sur d'autres sujets, sur l'état du monde, les crises du monde, etc. Donc simplement, si je m'intéresse à la question du bonheur, c'est que je crois effectivement qu'on peut améliorer son bonheur, que si on est malheureux, on peut devenir beaucoup plus heureux en faisant un travail sur soi. Mais simplement, ne le font que ceux qui le souhaitent. Et il ne faut pas en permanence nous dire, vous devez être heureux tout le temps. Il y a des gens d'abord qui n'y arrivent pas, il y a des gens qui n'ont pas envie. Moi j'ai des amis qui me disent, j'ai pas envie d'être heureux, je préfère être dans les affres de la passion amoureuse que d'être dans la zénitude de l'amour profond, durable. Donc chacun peut décider ou pas de s'améliorer dans sa quête du bonheur. Mais vous avez beaucoup de gens qui souffrent. Vous avez beaucoup de gens qui sont en situation de fragilité. Vous avez beaucoup de gens qui ont envie de passer de la tristesse à la joie. Autant leur apporter des pistes, des solutions pour essayer de s'améliorer, d'essayer d'aller vers plus de joie.
Ben, tant mieux quand c'est par la lecture, mais il y a aussi ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est-à-dire les coachs du bonheur, les coachs en développement personnel.
Il y a les thérapies, vous savez, on peut faire une thérapie aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapies, puisque vous me parlez de l'action du bonheur. Pourquoi je me suis intéressé à l'action du bonheur? C'est parce qu'adolescent, j'étais malheureux. Et donc, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, comment essayer de mieux aimer la vie? Comment essayer de changer mon regard? Et la question du bonheur, c'est changer le regard. C'est pas simplement, c'est le bonheur. C'est lié à la fois aux conditions extérieures. Vous avez de la chance, vous en avez pas. Vous avez des événements heureux ou malheureux. Ça nous arrive tout le temps. Et puis, il y a aussi le regard qu'on porte sur la vie. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc je dirais que 50% du bonheur, c'est les gènes, c'est le destin, c'est tout ce que vous voulez. 50%, c'est le regard qu'on porte sur la vie. Et vous pouvez changer votre regard pour, à partir des événements, quels qu'ils soient, garder une sérénité, garder une paix intérieure, garder la joie, malgré tout. Et c'est ça que j'ai appris à faire.
Eh bien, ce sera le message de ce 24 décembre. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Lenoir. Ça s'appelle « Le miracle Spinoza ». Ça paraît chez Fayard. On notera aussi la postface de Robert Misrahi, qui s'est nourri depuis qu'il a 16 ans à la lecture de Spinoza. Il en a aujourd'hui, Robert Misrahi, 91, je crois. Merci Frédéric Lenoir d'être venu ce matin sur France Inter. Et bonne journée.
Merci à vous.